5h30 minutes. Nous sommes jeudi 16 mai, que la journée était longue sans pouvoir échanger avec vous, c'est vrai.
Oui, hein, surtout qu'il nous a beaucoup écrit hier. Hein.
Ben,
c'est vraiment t'ennuyer.
Oui, ben c'est parce que je suis timide. Alors,
t'es
timide.
Hein? Avant, un peu moins.
Un peu de misère comme ça à exprimer les émotions, mais... Quand même, on va regarder les prévisions météo de ce jeudi matin avec un ciel qui est couvert, mais commence à avoir un peu de lumière au centre-ville. 14 degrés, toujours cette possibilité qui est là, elle est faible mais présente, d'averse au cours de la journée. Le brouillard, s'il y a encore du brouillard dans votre coin, va se dissiper. Et on prévoit 22 comme maximum aujourd'hui, l'humidex 26. Oh! Et cette nuit, quelques nuages avec un minimum de 13. Demain, vendredi, pour terminer la semaine, ça se couvre le matin, relativement tôt. Alors, le maximum, encore 23 degrés. Et l'humidex, toujours à 26. Regardons tout de suite les prévisions pour ce long week-end des Patriotes. Samedi, on prévoit du soleil 26. Dimanche, du soleil 26.
On danse encore.
Lundi.
Ah ouais donc?
Soleil.
Oh.
Ouais. 29 degrés. Oh.
Elle
n'est
pas encore partie, la piscine
à Alain.
Non,
il
faudrait que tu t'actives.
Par contre, il y en a ici, je sais que la piscine est déjà...
Ouais. T'es déjà en mouvement.
Ah, c'est fait, oui.
Ouais, chez nous aussi, bien sûr.
Le chauffe-eau est parti aussi.
Bon, ah, ben écoute, à quelle heure tu veux qu'on soit là?
Je rappelle qu'il y a une crise climatique, il y a des enjeux d'environnement aussi, c'est...
Ouais. Non, mais je connais. On refroidit à la maison, pour on chauffe la piscine.
Bon, alors, en ce jeudi matin, 16 mai, Côte-Nord, mesure temporaire pour empêcher le transfert des patients, mais la crise demeure entière. Les réseaux sociaux comme Instagram qui suggèrent des photos d'enfants à des pédophiles. Je vais vous expliquer ça ce matin. À Ormstown, un père aurait assassiné sa fille. Yvon Picotte, un politicien sensible et un fier nationaliste, nous a quittés. Et on va parler de bouffe ce matin. Il y a un gros salon à Montréal. Il semble que, d'après les sondages, les Québécois aiment se payer des petits gâteaux, des gâteries, oui, et grignotent aussi beaucoup.
Oh, ouais.
98.5 Montréal. Vous écoutez Puisqu'il faut se lever. Pour tout savoir de l'actualité, voici Paul Arcand.
Puisqu'il faut se lever.
Comment vous allez ce matin?
Très bien.
Bon.
Ça va?
Oui. Oui.
Ben oui,
c'est crédible, c'est convaincant. D'abord, ce matin, je vais prendre 2 secondes pour saluer un automobiliste. J'ai pris le numéro de plaque, mais je ne le donnerai pas en onde, évidemment. Mais j'ai jamais vu depuis longtemps quelqu'un conduire aussi mal que ça, à un point tel que je me suis dit, il est en état d'ébriété. Mais non, parce que il s'est finalement stationné, puis il est sorti de son véhicule, puis il avait pas l'air de quelqu'un au terme d'une nuit alcoolisée.
Il évitait les trous ou quoi?
Non. Ça c'est normal, éviter les trous.
Oui, mais des fois, ça peut donner des...
Non, mais quelqu'un que tu dépasses, puis qu'il a la face dans son téléphone cellulaire en train de regarder son GPS, change de voie sans clignoter, accélère, arrête brutalement. Écoute, là, sur le boulevard René-Lévesque. C'est pas des farces, là. Il a fait toutes les voies du boulevard René-Lévesque, puis il y a des cônes à certains endroits et tout ça. Puis il s'est mis à tourner sur Robert Bourassa pour se stationner dans la pente, sortir de son véhicule pour regarder son téléphone cellulaire.
Salut, champion!
C'est un méchant champion.
Ouais. Quand je parle aux camionneurs, là, des exemples comme ça, j'en ai presque à tous les jours.
Je le sais parce qu'il y en a qui m'écrivent et qui me parlent du pont Champlain quand il y en a qui décident soudainement...
Swing.
on passe à la voie extrême, puis oui. Pas de clignotant.
Extrême gauche à l'extrême droite, on swing, pas de clignotant. Moi, je passe.
Ça ressemble pas mal à ça. Bon, beaucoup de choses ce matin. On va revenir sur la situation sur la Côte-Nord. Il y a des mesures temporaires qui ont été adoptées, mais le problème demeure entier quand même. Il y a une enquête du New York Times qui a été publiée en début de semaine et qui montre que des réseaux sociaux comme Instagram suggèrent des photos d'enfants à des pédophiles. Et je vais vous donner l'exemple très simple. C'est une pub qui met en vedette une photo d'une petite fille. Et la compagnie qui fait la pub met ça sur Instagram. Puis là, jusque-là, ça va. Et décide de faire un relevé en disant, mais qui a pu voir et qui est intéressé par notre pub? Et majoritairement, ce sont des hommes. Et beaucoup d'entre eux ont interagi avec l'enfant en question, ou ont tenté, avec des commentaires, je te jure, à connotation sexuelle, puis ils ont fait des tests. Et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Pourquoi j'en parle ce matin? C'est parce que ça prend de l'ampleur. Puis les gens ont l'impression que de mettre des photos d'enfants sur Facebook, sur Instagram, il n'y a rien là. Mmh. C'est pas vrai. Et donc, on aura deux experts pour en parler ce matin. Mais d'abord, on va commencer avec Bénédicte, parce qu'à Armstown, il y a un père qui a assassiné sa fille. En tout cas, c'est ce qu'on a comme info, là.
C'est ce qu'il y a comme première information. Sa fille qui aurait été poignardée à mort. Amanda Casa, 34 ans. Ça se passe chez elle hier sur la rue Cairns à Armstown. Et son père, Alain Casa, 60 ans, a été arrêté sur les lieux. Quand les policiers sont arrivés sur place. Selon mes informations, c'est le père qui aurait appelé. Et quand les policiers arrivent, le décès de la femme a été constaté. Son père avait des blessures mineures seulement. Là, maintenant, le fil des événements, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver jusque-là? Disons que c'est le mystère complet, mais les gens étaient assez sous le choc. C'est rare qu'on voit ça. Je veux dire, on a vu toutes les déclinaisons de femmes assassinées depuis le début de l'année, mais un père qui s'en prend à sa fille, c'est assez particulier.
Puis il y a aussi eu des coups de feu de tirer sur un immeuble sur le plateau Mont-Royal.
Autour de l'avenue Henri-Julien, près de la rue Boucher, et ce n'est pas la première fois que cet endroit-là est ciblé. On parle de coups de feu. Cette nuit, deux personnes qui ont été arrêtées, et c'est dans le même secteur, et si je me trompe pas, ce serait même le même immeuble où demeurent les parents de Jean-Philippe Célestin, chef de gang à Montréal, et on se rappelle qu'il avait été visé il n'y a pas très longtemps. Alors, ce serait du moins dans le même secteur et possiblement le même immeuble. Alors, disons que ça donne quelques indications.
Merci, Mme Morin.
L'armée ukrainienne a arrêté les progrès des Russes dans certaines zones de la région de Kharkiv, où une attaque surprise a été lancée par la Russie le 10 mai. Le porte-parole de l'armée ukrainienne a cependant ajouté que la situation restait compliquée. Il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a laissé entendre hier que les forces ukrainiennes pourraient bombarder la Russie avec du matériel fourni par les États-Unis. Un changement de posture qui était attendu depuis fort longtemps par l'Ukraine. Le président russe est en visite en Chine pour deux jours. Le président Xi Jinping a qualifié la relation Pékin-Moscou de propice à la paix lors de sa rencontre à Pékin avec son homologue Vladimir Poutine. L'état des relations entre les deux pays pourrait avoir des conséquences sur l'issue de la guerre en Ukraine, selon des analystes. Le Hezbollah libanais a indiqué avoir tiré des dizaines de roquettes sur des positions militaires israéliennes aujourd'hui en représailles à des frappes aériennes au cours de la nuit menées par sur l'est du Liban. Par ailleurs, à Rafah, près de 600 000 personnes auraient fui depuis l'ordre d'évacuation de la semaine dernière émis en vue de l'offensive israélienne sur la ville. Et chez nous, après avoir connu un nombre d'échecs anormalement élevé à l'automne 2022 puis au printemps 2023, voilà que les taux de réussite à l'examen d'admission pour les infirmières ont grimpé en flèche. Ils sont passés de à peu près 51% au mois de mars 2022 à 92% pour l'examen qui s'est tenu le 26 mars. Les milieux cliniques pourront ainsi compter sur 1700 nouvelles infirmières. Et du côté de la Fédération nationale des enseignants du Québec, on cherche à comprendre
ce changement radical.
Ce changement radical.
Ils sont donc bien bons tout d'un coup.
Ben là, on avait mis ça sur le dos de la COVID pendant un bout de temps, mais il y avait plus que ça aussi. Il y avait une enquête qui avait été faite là, sur le genre d'examen puis la question composée. Le sport.
Soccer, une troisième défaite consécutive pour le CF Montréal qui s'incline 3-1 hier au stade Saputo devant le Crew de Columbus. Et au hockey, l'Avalanche, qui est toujours vivant, remporte une victoire de 5-3 hier à Dallas. Il y aura donc un sixième match entre Colorado et les Stars.
Madame?
Ben, je vous parle quand même d'une très bonne nouvelle qu'on a apprise. C'est ce matin, d'ailleurs. Décembre sera de retour à Montréal. Ce spectacle de Québecissime à la salle Pierre-Mercure, spécialement pour le temps des fêtes. Non, je ne ferai pas jouer de petits grelots et de Père Noël ce matin quand
On va avoir un peu de musique de Noël quand même.
Oui, écoute, on va travailler là-dessus. Je vais aussi vous parler de musique country parce que je vous parle beaucoup de musique latine. Et c'est vrai que dans les chansons d'été, l'été, c'est souvent les musiques latines, mais cette année, ça pourrait faire changement avec des chansons country, avec notamment le DJ producteur Mosh Mello qui nous avait donné El Merengue l'an dernier. Oui, j'aime ça. Je me gâte un petit peu. Mais peut-être qu'il pourrait avoir une nouveauté cette année. Est-ce que Richard a trouvé de la musique de... Ah, ben c'est celle-là. Ça, c'est Miles Henry, la chanson de Mosh Mello, effectivement. Et là, t'attendais les chansons de Noël.
Non, mais ça sent la recette un peu d'été.
Oui, beaucoup,
beaucoup,
ouais.
Bon. On sent la veille.
Oui, pour décembre.
Ouais, bon, ouais. On va revivre ces moments quand même, le temps des fêtes. Ça va être très agréable tantôt. Fred, c'est la fin pour le phénomène des réseaux sociaux. Vivre à trois.
Bon, ce matin, je vous avertis, ça va être un sujet un peu plus décoiffant pour certains, mais je vous rassure, ça reste dans l'acceptable d'une émission à heure de grande écoute. Là, je vais vous parler du
mission
phénomène...
familiale, ici, oui, on a le sens des responsabilités.
Vivre à trois, c'est l'histoire de Martin et Cathy, un couple âgé dans la cinquantaine. Ils ont été ensemble à peu près 11 ans avant de faire la connaissance de Pénélope, 25 ans, avec qui ils ont décidé de former un trouple. Ils ont décidé de documenter leur nouveau type de relation polyamoureuse sur les réseaux sociaux et le vivre ensemble.
Puis c'était bien bizarre, moi, vous le dire, là, c'est bizarre.
Bon. Peux-tu le laisser fader?
Oui, c'est correct. C'est
dans le même lit, un très grand lit, voyage ensemble. Personnellement, moi, je trouvais que c'était un plaisir coupable à regarder, même si le contenu pouvait être un peu surprenant.
Ben, ils prenaient leur bain avec la mousse, puis tout, là. C'était bizarre.
Peux-tu le laisser vader?
Et là, hier, coup de théâtre, dans une vidéo, Cathy et Pénélope ont annoncé le départ de Martin. Leur séparation, et on aurait pu penser que Martin serait parti avec la plus jeune. Ben non, Martin est parti tout seul. Et laissant derrière Cathy et Pénélope qui forment désormais un couple à deux et elles doivent repenser leur chaîne sur les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, j'avais envie de jaser du phénomène avec une clinicienne, Myriam Dagouzan-Bernier, qui est sexologue. Elle dit qu'elle voit de plus en plus de couples qui repensent leur façon de concevoir leur relation. Comment commencer à ouvrir sa relation notamment? Et il y en a même qui ont des plages horaires dans leur agenda pour pouvoir ouvrir leur relation.
Mais le polyamour, c'est pas d'hier non plus, là. Ça existe.
Non, c'est ce qu'elle disait, sauf qu'avec les réseaux sociaux, les gens, bon...
Ça a l'air à t'interpeller pas mal, je trouve.
Ben, moi, je serais pas capable. Non, bien, honnêtement, si on ouvre la discussion, non.
Tu es doué?
Mais non, c'est correct, je les respecte.
Non, tu respectes pas, puis tu juges.
Qu'est-ce qui est pire, finalement? Des gens qui vivent en toute connaissance de cause ou des gens qui vivent des relations chacun de leur côté de façon hypocrite, tu sais, au fond?
OK.
C'est une question à se poser.
On va revenir sur Terre deux secondes, parce que Marc est en circulation. On a des visites ce matin.
Oui, reporter invité en contre-emploi, Michel Barrette, qui va être avec nous. Sa formation commence à 7 heures.
Oui.
Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je suis sûr qu'il va être très bon. J'ai vraiment...
Il connaît ça, les autos.
C'est un gars qui roule beaucoup et qui est tellement polyvalent, qui a occupé toutes sortes d'emplois dans le monde des médias. J'ai aucune inquiétude, ça va bien se passer. Et ça va être intéressant.
Il va falloir que tu l'arrêtes parce que lui, il va dire, OK, il y a une Honda Civic à tel endroit, puis il va tout raconter.
Il va être dans le détail, il va raconter l'histoire de la Honda. C'est vrai que c'est un grand raconteur, mais ça va être bien intéressant. En circulation ce matin, tunnel à Fontaine vers le sud, déjà congestionné avant la rue Sherbrooke. La 25 Terrebonne, Montémasson, 13 sud d'Agenais, c'est mieux sur la 15. Le pont des Lotours, tout au ralenti. Il y a une grosse fermeture sur la 40 ouest. C'est un peu plus loin de nous, mais tout de même, entre Berthierville et La Valtrie, c'est fermé jusqu'à 7 heures, travaux d'asphaltage. Détour par la 158 ou la 138, il y a des gens qui vont se faire prendre là-dedans, c'est sûr.
Mais pourquoi ils font ça le matin de même?
Ben, j'ai l'impression que c'est un tronçon qui n'est pas trop achalandé. T'sais, à Montréal, on fait des travaux jusqu'à 5h30. Dans ce coin-là, on s'est donné un petit lousse. Il y a peut-être eu un retard de chantier aussi, mais 7 heures, ça me semble un brin tard.
Bon, rapidement, quelques nouvelles de la planète. Il y a vraiment des gens étranges ici. Alors, c'est le cas d'un homme en Louisiane qui a été arrêté. En Arkansas, pardon, qui a été arrêté par les policiers. Et voici la liste des infractions. Un, il conduisait avec les facultés affaiblies. Deux, il avait une arme interdite dans son véhicule. Trois, il avait un faux permis de conduire. Cinq, fausses cartes d'identité. En plus de ça, on a trouvé des substances illégales et il a tenté de s'en prendre aux policiers. Alors, juste pour ça...
C'est un peu suspect.
C'est un peu louche quand même, comme comportement. Il y a quelqu'un qui a gagné à la loterie. Fameuse loterie américaine Mega Million, l'équivalent de 1,3 milliard. Et quand t'enlèves les impôts puis tout ça, c'est une somme au total de 550 millions qui a été remportée, ce qui est quand même pas banal, là. Mais là, ça a l'air qu'ils se sont retrouvés devant la justice parce que avant de gagner, la personne aurait fait des déclarations promettant de partager les si jamais il y avait un billet gagnant. avec des membres de sa famille. Et ça n'a pas été le cas. Et là, les membres de la famille sont rendus devant les tribunaux en disant, oui, oui, ma tante nous a dit ça un soir qu'elle était pour partager.
Ben oui, hein?
Oui, alors, d'autre part, il y a un record Guinness qui, malheureusement, ne pourra pas être, je dirais, inscrit dans le livre. D'abord, ça s'est passé ici dans une petite